Alors que Bruxelles accueillait la finale de la Coupe de Belgique de football dimanche dernier, eh bien des heurts ont éclaté entre supporters et forces de l'ordre dans les rues de la capitale. Le quartier maritime à Molenbeek a notamment été la cible d'affrontements violents qui ont fait 2 blessés. On en parle ce matin, plus particulièrement Blaise van der Linden en parle avec Michael Dantin, criminologue à l'ULG, c'est-à-dire l'Université de Liège. Voici Michael Dantin au micro de Blaise van der Linden.
Michael Dantin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, le dimanche avait lieu la finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et Bruges, mais on va se focaliser sur ce qui s'est passé autour du stade Roi Baudouin, des supporters de Bruges qu'on peut qualifier de hooligans, qui s'en sont pris à des jeunes à Molenbeek, qui s'en sont pris également à des commerces, des jeunes qui se sont vengés. On a vu des scènes terribles sur des images. Michael Dantin, pouvez-vous un peu nous résumer ce qui s'est passé dimanche autour du stade Roi Baudouin?
Alors, il faut évidemment être, prudent, dans la mesure où il y a vraisemblablement des enquêtes qui sont en cours, au-delà des arrestations administratives et qui vont faire la clarté sur tout ce qui s'est passé. Mais ce qui semble aujourd'hui avéré, c'est que un certain nombre de supporters brugeois se sont très négativement signalés dès leur arrivée à Bruxelles, à commencer par la gare, qu'ils auraient ensuite endommagé, détruit même une première rame de métro, et d'ailleurs sérieusement abîmé celle qui avait été mise en remplacement de la première qui était rendue inutilisable, et que certains d'entre eux, profitant de ce changement de métro, seraient remontés à la surface, si vous voulez, sur le parcours qui devait les emmener au stade Roi Baudouin, et qu'ils se seraient alors confrontés avec un certain nombre d'individus dans des quartiers bruxellois, des jeunes, pour commencer, mais aussi des commerçants. On a tous vu ces images d'une extraordinaire violence, ce qui a amené évidemment un certain nombre de groupes de résidents, eh bien, à leur tour, à s'organiser pour organiser la confrontation, une confrontation dont il faut le dire, qui s'est d'ailleurs poursuivie après le match, hein, comme un rendez-vous donné pour le match retour. Eh bien, vraisemblablement là, si vous voulez. Pour régler les comptes au propre mot figuré, eh bien, on a encore eu des affrontements après le match, et on est donc ici, si vous voulez, dans une forme de hooliganisme qui n'est pas un hooliganisme d'abord qui s'exprime dans le stade, mais sur le parcours de celui-ci, et qui n'est pas un hooliganisme qui met aux prises les supporters de deux clubs, les noyaux durs de deux clubs, mais le noyau dur d'un club vraisemblablement, celui de Bruges, et la population locale, les commerces locaux, dans des territoires qui sont simplement traversés.
Alors on connaît la violence de certains de ces groupes de supporters, si on peut les appeler comme ça. N'étaient-ils pas encadrés par les forces de sécurité?
Alors c'était un match très clairement à haut risque, hein, puisqu'en réalité il oppose des clubs historiques connus pour avoir des noyaux durs possiblement très violents. Et donc, il y avait un dispositif de sécurité qui commence notamment par tenter d'escorter, finalement, et de canaliser les mouvements de supporters pour éviter qu'ils ne se croisent et donc éventuellement ils ne s'affrontent. Ce que d'ailleurs, parfois, ils contournent en s'affrontant un autre jour et ailleurs. Mais ici, on parle de faits survenus le jour du match, et force est de constater que pour un affrontement différent, encore une fois, entre des clubs, entre guillemets, de supporters, on peut gloser longtemps, hein, sur sont des supporters ou non. Moi, je pense que ça en sont, mais d'un supporterisme pathologique. Et ici, des non-supporters en réalité. Est-ce qu'ils ont su profiter, si vous voulez, du saccage d'une rame de métro, ce qui est déjà en soi un comportement répréhensible, pour s'échapper du dispositif et se retrouver alors complètement, vacants et sans dispositif de proximité pour commettre ce qu'ils ont vu? Bien, ça, je pense qu'il y aura des conséquences à en tirer au niveau de l'organisation du maintien de l'ordre sur cette rencontre, au vu de ce qui s'est passé.
Oui, justement, vous l'avez rappelé, ce sont peut-être sûrement les deux plus grosses communautés de supporters du pays. C'est un match à haut risque. On a déjà vu dans le passé des incidents autour de ce match Anderlecht-Bruges. Justement, j'aimerais rebondir sur votre dernière partie de la phrase. Il y aura des leçons à en tirer pour le futur.
C'est vraisemblablement, oui. Et ce, d'autant plus qu'on est, et c'est un secret de Polichinelle quand même, dans un contexte où les grandes villes de Bruxelles, Liège, ont qui ont des problèmes budgétaires absolument énormes et pour lesquels l'on sait que l'organisation du maintien de l'ordre présente un coût très important et que leur volonté est de réduire ce coût, vraisemblablement en le faisant davantage subir, supporter par les organisateurs de manifestations, en l'occurrence les manifestations sportives. Donc je dirais que c'est un problème qui tombe évidemment mal dans un contexte qui est déjà très tendu. Il faut quand même se rendre compte qu'à Bruxelles, et ceci n'exonère personne de ses responsabilités, mais je ne voudrais pas passer sous silence le fait que les responsables, ce sont ceux qui ont été impliqués dans ces bagarres particulièrement violentes, et ce, dans les deux camps. Hein, de toute façon, on n'est pas dans une cour de récréation où seul celui qui aurait commencé serait coupable, bien entendu. Eh bien, on ne peut pas non plus exclure qu'il y ait eu là derrière aussi des mobiles racistes avec un noyau dur de supporters du football club brugeois qui est connu, hein, pour quand même ses affiliations avec, je dirais, des idéologies d'extrême droite. Mais néanmoins, je pense qu'il faudra assez vraisemblablement tirer des conclusions sur le dispositif et voir ce qu'il s'est passé pour l'améliorer pour les fois suivantes, s'il y en a, avec le risque aussi que, à cause de ces coûts et de ces problèmes, à un moment donné, plus personne ne veuille accueillir ce type de manifestation. Je ne dis pas qu'on va en arriver là, mais on est dans un climat qui est quand même aussi très tendu au niveau là, davantage politique autour de ces matières.
Alors, le 18 mai prochain, dans le cadre du championnat, cette fois-ci, aura lieu de nouveau un match entre Anderlecht et Bruges. La secrétaire d'État bruxelloise Hans Persson a demandé que la prochaine confrontation entre les deux clubs ait lieu sans supporters du club de la Venise du Nord. Donc, interdiction de déplacement des supporters brugeois. Ça se fait beaucoup chez nos voisins français. Est-ce que selon vous, c'est une possibilité, c'est une solution?
Alors, c'est encore le cas le même jour pour le match standard Charleroi, où les supporters charleroi ont été interdits de visite. De toute façon, dans les matchs standard Anderlecht, c'est depuis longtemps décidé par les deux clubs, d'un commun accord. Donc, on voit que les clubs essaient de collaborer en termes de gouvernance à la politique des pouvoirs publics. Et alors, si vous voulez, oui, forcément, ça va réduire le risque d'affrontement, mais je le précise ici, l'affrontement n'a pas opposé deux groupes de supporters, et puis il faut évidemment se méfier des effets de déplacement. On sait déjà qu'en raison des mesures de sécurité qui normalement sont efficaces et encadrent les rencontres entre groupes de noyaux durs de supporters, dont il faut rappeler qu'ils sont une infime minorité de supporters, que des affrontements codifiés ont lieu sur des points de rendez-vous donnés. C'est-à-dire le jour des matchs, mais ailleurs, ou en dehors des jours des matchs et ailleurs. Et que il ne faudrait pas que ces antagonismes, qui sont problématiques, fassent l'objet d'un traitement cosmétique qui les effacerait le jour des matchs, alors qu'ils interviendraient à d'autres moments et dans d'autres espaces, et pire, qu'on ne les connaîtrait pas. Alors on se réjouira de la fin des nuisances, mais on pourrait un jour assister à des drames, dans des bagarres, dans des forêts, comme ça se fait dans tous les pays, on s'en compris dans le nôtre. Et même s'il y a des codes d'honneur, mais qui tentent à s'étioler dans ces rencontres, des choses que l'on fait, des choses que l'on ne fait pas, eh bien, je pense que ce n'est pas une solution. Et philosophiquement, ça posera la question de la mise en balance, si vous voulez, des impératifs pragmatiques de gestion du maintien de l'ordre et des nuisances qui sont véritablement des choses qui pèsent lourd, et je le comprends tout à fait, mais aussi la philosophie d'une abdication de l'État dans l'organisation safe d'une rencontre de football. Est-ce que le football est un sport qui est voué, par la faute de certains supporters, à devenir un sport dans lequel il n'y a pas de groupes de supporters qui se font face, de groupes de supporters qui se font face? Le problème n'est pas le fait de se faire face, parce que c'est le principe du match de football. Le fait est la manière dont on se fait face. Et là, je crois qu'il faut constater que, eh bien, les politiques habituelles ont, à mon sens, montré leurs limites. J'ajouterais que pour le match dont vous parlez, il y a eu une espèce de feu d'artifice illégal qui s'est passé tout le match durant dans les tribunes, alors que les engins pyrotechniques sont normalement interdits, que des fouilles ont lieu à cet effet et que leur usage est synonyme normalement de sanctions qui peuvent aller jusqu'à des interdictions de stade. On voit à quel point là aussi on a eu un problème, comme on en a régulièrement, ce qui prouve que les interdictions montrent leurs limites. Et donc la question philosophique est, qu'est-ce qu'on met dans la balance et à quoi est-ce qu'on veut arriver et comment? Je pense qu'il y a là, si vous voulez, un problème de société qui dépasse aussi assez largement la problématique du football, mais qui néanmoins la concerne.
Michael Dantine, je rappelle que vous êtes criminologue à l'ULIEJ. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Vous en prie.